8e édition du Challenge App Afrique lancé par France Média Monde et ses partenaires, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Agence française de développement. Deux lauréats ont été récompensés le 3 avril 2024 à l'Institut français à Abidjan pour leurs apports aux innovations numériques, des projets qui contribuent à améliorer l'accès aux énergies propres en Afrique. Il s'est agi à travers ce concours d'encourager et soutenir l'innovation en stimulant et en accompagnant les jeunes entrepreneurs. Le projet de l'Ivoirienne Nora Monet a reçu le prix Coup de cœur digital Energy Facility, un nouveau prix récompensant son projet dénommé Green Aid et qui offre des modules de formation et de renforcement de capacités. Quels objectifs vise ce projet? Comment va-t-il fonctionner? Quelles sont les langues locales choisies pour commencer les activités? A-t-on pensé aux femmes, surtout à celles vivant en milieu rural? En quoi Green Aid peut-il contribuer à lutter contre le changement climatique? C'est de tout cela que nous allons parler dans une poignée de secondes.
Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Nora Monet, bonjour.
Bonjour.
Challenge App Afrique, vous êtes la lauréate du prix Coup de cœur Digital Energy Facility. Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
C'était une surprise pour moi, parce qu'effectivement, ce prix est un nouveau prix qu'ils ont décidé de rajouter parce qu'ils n'ont pas eu assez de candidatures féminines. Et j'ai eu donc la chance que le projet fasse partie des projets coup de cœur portés par des femmes. C'est un peu ça qui m'a emmenée là.
Votre projet, comment s'appelle-t-il? De quoi traite-t-il exactement?
Le projet s'appelle Green Aid. Il est parti du constat que 66% de la population ne maîtrise pas la langue française, 47% de la population est encore analphabète, et toute cette cible-là n'aura jamais accès à du contenu de formation leur permettant de monter en compétences et de développer du savoir-faire. Le constat que je pense qu'on peut tous faire logiquement, c'est que quand on maîtrise pas une langue, c'est difficile d'aller sur YouTube chercher un contenu de formation et se l'approprier. Le besoin, il est présent, surtout dans les énergies vertes, parce qu'on a tous compris que la transition énergétique, elle est importante par rapport au changement climatique actuel et au déficit énergétique du continent africain. Il faut pouvoir se former pour pouvoir développer des compétences et puis faire la bonne transition vers l'énergie verte. D'où l'idée de pouvoir proposer des contenus de formation en langue locale pour permettre à toute cette population-là de pouvoir bénéficier de cours et de développer des compétences techniques dans ces domaines-là, dans la langue, à travers des contenus accessibles, audio, vidéo et jeux ludiques.
Quelles sont les langues locales qui ont été privilégiées?
Il y a 4 langues locales qui ont été privilégiées pour le démarrage du projet. Le Pété, le Baoulé, le Djoula et le Sénoufo pour démarrer le projet.
Et pourquoi le choix de ces 4 langues?
Parce que selon nos recherches que nous avons faites sur Internet, c'est les 4 langues les plus parlées en Côte d'Ivoire pour l'instant.
Les 4 langues les plus parlées pour l'instant en Côte d'Ivoire. On connaît aussi le pourcentage d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ces populations vont s'y prendre pour intégrer le projet?
Je pense que on peut tous constater qu'un enfant à 2 ans, il a une tablette dans la main, il sait aller regarder son dessin animé préféré parce que du coup c'est intuitif. Notre application sera encore plus simple que les applications qui existent déjà. Avec des images claires, avec un processus clair, les utilisateurs pourront facilement accéder au contenu qu'ils souhaitent. Mais bien évidemment, cette solution-là pourra s'intégrer dans des programmes de formation dans lesquels seront intégrés l'installation et puis la formation à l'utilisation de l'outil.
Alors pourquoi est-ce que ce renforcement de capacité se tourne vers l'énergie verte?
Parce que c'est la thématique de l'appel à projet, déjà. Il faut savoir que, étant dans le domaine de l'économie circulaire, on fait déjà des formations dans les énergies renouvelables, les énergies vertes, la gestion des déchets, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on change les mentalités, déjà. Donc, RFI France 24, à travers le challenge App Afrique, ont mis l'accent sur les énergies vertes parce qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Mais quel type d'énergie? On doit arrêter d'utiliser les énergies fossiles qui sont limitées et partir vers des énergies qui sont renouvelables, disponibles et qui protègent l'environnement. C'est ainsi que c'est important, étant un domaine assez nouveau, c'est important de pouvoir renforcer les capacités des utilisateurs même pour qu'ils aient envie de se tourner vers ça, et puis renforcer les capacités des futurs entrepreneurs dans le domaine, des futurs techniciens qui vont travailler dans les futures sociétés qui seront créées dans ce domaine. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est pas une fois que la technologie sera là et qu'après on va se retrouver bloqué parce qu'il y aura pas la compétence pour gérer la maintenance, gérer l'installation, etc.
Avez-vous pensé aux femmes à travers ce projet Green Aid? Et quels sont les secteurs de l'énergie verte qui sont visés par votre projet?
Les femmes sont au cœur de mes projets, personnellement parlant. Certes, l'application est destinée à tout le monde, mais dans un premier lieu, surtout en milieu rural, c'est important de autonomiser les femmes financièrement. Et les femmes, ce sont celles qui utilisent l'énergie de la maison. Pour la cuisine, par exemple, elles utilisent de l'énergie. C'est pour ça que l'application s'est concentrée sur 3 modules. On a le biogaz, le biocharbon, qui vraiment cible les femmes parce que c'est elles qui vont le produire et l'utiliser au quotidien. Et l'installation et la maintenance des panneaux solaires, qui ça peut-être va attirer un peu plus les hommes, même si les femmes peuvent aussi participer à ce module de formation sans problème.
Pour les femmes du milieu rural, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de vous à travers le biogaz? Comment définissez-vous le biogaz?
Le biogaz, c'est un gaz qui est produit à partir des déchets organiques. Donc du coup, l'application va leur montrer comment est-ce qu'elles vont utiliser leurs déchets pour produire du gaz pour cuisiner. Et du coup, elles n'auront plus à aller charger des fagots de bois sur leur tête et marcher des kilomètres pour pouvoir préparer la sauce. Mais rien que en utilisant soit les déchets du champ ou les déchets même de la maison, ou les déchets des toilettes, ou tout le tout mélangé, elles pourront elles-mêmes produire l'énergie dont elles ont besoin pour chauffer l'eau, pour faire à manger, etc. Ça leur permettra de réduire leur fatigue, réduire leurs dépenses en bois si elles en achètent, et participer aussi à la lutte contre la déforestation.
À quoi est-ce que ce type d'énergie verte peut contribuer à la réduction des gaz à effet de serre?
Très bonne question. Aujourd'hui, quand on laisse les déchets organiques se décomposer dans l'environnement, ça produit du méthane. Le méthane est un gaz hautement responsable, c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus fort que le carbone. À travers la production de biogaz, ce méthane-là, il ne s'échappe pas dans l'atmosphère. Il est orienté directement vers le brûleur dans lequel il est brûlé pour pouvoir chauffer le gaz. Donc du coup, on évite une émission de gaz à effet de serre très importante. Pareil pour le biocharbon. Parce que même si on a une quantité de dioxyde de carbone qui s'émet dans la combustion pour la fabrication du biocharbon, par rapport à la quantité de méthane que la dégradation à ciel ouvert de ces déchets-là va provoquer, on est déjà dans l'atténuation.
Et qu'en est-il de l'énergie éolienne?
L'énergie éolienne, on ne s'est pas attaqué à ce secteur-là parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les preuves que le vent soit suffisant toute l'année pour pouvoir faire tourner une éolienne et avoir le rendement énergétique qu'il faut pour alimenter les besoins du quotidien.
Vous parliez à l'instant des domaines de l'énergie verte qui sont visés par votre projet. Il y a le solaire. Parlez-nous du solaire.
Alors le solaire, effectivement, on remarque de plus en plus dans les villages, on voit que les cases ont au moins un panneau solaire sur leur toit. C'est une technologie qui commence à être de plus en plus vulgarisée et accessible et qui offre des perspectives de création d'emplois ou d'activités génératrices de revenus. Mais pour ça, il faut développer les compétences dans l'installation et puis dans la maintenance du panneau solaire. Il y en a même qui arrivent à fabriquer, à monter de toutes pièces des panneaux solaires. Ils achètent les pièces, ils font venir les pièces détachées et puis ils montent les panneaux solaires, etc. Donc il y a beaucoup de perspectives, en tout cas, d'amélioration des revenus ou d'autonomie financière derrière, en plus de l'impact que ça a sur le changement climatique, parce que là, c'est l'énergie du soleil qui est directement captée. Et pour l'instant, le soleil, c'est une source d'énergie infinie. Donc, du coup, c'est vraiment une énergie, on peut pas dire 100% verte, parce que le panneau solaire a quand même un impact écologique. Mais en tout cas, c'est l'une des meilleures énergies qui soit. L'impact écologique du panneau solaire, c'est déjà au niveau des composants. Ces composants qui sont extraits, c'est des métaux assez rares qui sont extraits du sol. La recyclabilité, elle est encore en train d'être améliorée, mais elle n'est pas non plus hyper performante. Les batteries qui sont utilisées aussi ont des durées de vie toujours un peu limitées, même si on est passé au lithium. Donc on a quand même plus, je pense, près de 10 ou 15 ans d'espérance de vie des batteries. Mais on est encore en train de chercher à améliorer la gestion des déchets de ces équipements-là, équipements électriques et électroniques. Voilà, c'est encore d'autres défis auxquels on doit répondre, mais on se dit qu'on a quand même un certain temps avant d'être confronté à ça. Donc on ne peut pas dire que c'est zéro impact, parce qu'il y a quand même ces petits défis-là à relever, mais la recherche avance bien là-dedans et je pense qu'on finira par trouver des solutions efficaces.
Est-ce qu'il y a une perspective de partenariat au niveau de la finance?
Le projet est à ses débuts, on va dire. Donc déjà, nous avons autofinancé la conception des modules de formation qui sont en train d'être terminés. Et grâce au concours Challenge App Afrique, nous allons bénéficier d'un accompagnement de l'Agence française de développement pour pouvoir donner vie à la première phase pilote de l'application.
Justement, vous parliez du Challenge App Afrique. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont postulé. Vous êtes la seule femme lauréate retenue. En tant que femme, pourquoi le projet vous a tant intéressée?
Déjà, dans ma personnalité, je ne fais pas de distinction homme-femme. Je me dis qu'il n'y a pas des problèmes qui sont destinés aux hommes ou aux femmes. Quand on veut entreprendre, on cherche des solutions à n'importe quel problème, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, que notre solution soit destinée à des hommes ou des femmes. C'est un peu ma philosophie. Donc quand j'ai vu passer cet appel à projet, j'ai espéré que beaucoup de femmes aussi puissent se lancer dedans parce qu'il y a différentes manières de produire de l'énergie et que du coup les femmes aussi ont leur place dans le secteur de l'énergie. Donc je profite même pour encourager beaucoup de femmes à s'inscrire dans le secteur de l'énergie. On n'est pas obligé de tous être électriciens, électriciennes pour développer les énergies vertes, mais quand on voit le biocharbon qui touche les femmes, le biogaz aussi, ça peut toucher les femmes. Et puis on peut trouver peut-être d'autres sources d'énergie verte, naturelle, qui peuvent intéresser les femmes. Et même là, mon projet, c'est pas directement de la manipulation technique ou technologique, c'est de la formation. Et dans le renforcement des capacités, on dit que la femme, c'est elle qui éduque. Du coup, c'est elle qui a la pédagogie ou l'andragogie pour pouvoir enseigner. Et je me dis que, voilà, je pense vraiment que toutes les femmes ont leur place dans ce genre de concours-là et qu'on ne devrait pas se limiter selon son genre, en fait. Si on pense qu'on peut apporter quelque chose à un secteur, qu'on soit homme, femme, jeune ou vieux, je pense que qui ne tente rien n'a rien et que le jeu en vaut la chandelle.
Y a-t-il une structure qui vous vient en aide?
Le projet est à ses débuts, on va dire. Donc déjà, nous avons autofinancé la conception des modules de formation qui sont en cours, qui sont en train d'être terminés. Et grâce au concours Challenge App Afrique, nous allons bénéficier d'un accompagnement de l'Agence française de développement pour pouvoir donner vie à la première phase pilote de l'application.
Monet Nora, comment est-ce que tu as travaillé sur ce projet?
Aujourd'hui, il y a deux collaborateurs en plus de moi-même. Donc du coup, c'est avec les deux collaborateurs qu'on élabore les modules de formation. Moi qui suis titulaire d'une maîtrise en génie des environnements naturels et industriels et d'un master 2 en gestion des déchets et économie circulaire, j'ai les compétences techniques pour élaborer les modules en biogaz, en biocharbon. Dans le solaire, on doit se faire accompagner, c'est pour ça que là le module il n'est pas encore terminé parce que là ça demande une technicité qui est assez spécifique. Mais voilà, c'est avec l'équipe qu'on collabore sur ça et qu'on va aussi continuer de collaborer sur les vidéos. Et derrière avec l'Agence française de développement, on va être accompagné pour le volet digital, faire le codage de l'application, la programmation de l'application, etc.
En Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 ethnies. En dehors des ethnicités, comptez-vous l'étendre, votre projet Green Aid, à d'autres ethnies, à d'autres régions de la Côte d'Ivoire?
Malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on puisse couvrir la totalité des langues, mais je pense que si on arrive déjà à 10 langues pour la Côte d'Ivoire, on peut s'autoriser à toucher un peu au niveau de la sous-région. Parce que le problème énergétique, il est lié. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fournit d'autres pays de la sous-région et parfois on sent le délestage quand même. Donc c'est important aussi que la compétence monte, en tout cas dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi pas même, on ambitionne sur un long terme de conquérir l'Afrique francophone.
Dans la mise en place et dans l'exécution de ce projet, avez-vous rencontré des défis à surmonter?
Comme on est au début du projet, on n'a pas encore identifié tous les défis, mais c'est pour ça qu'on commence petit à petit, parce que on s'attend déjà à des défis technologiques. Il y a des questions, il y a des défis un peu techniques au niveau des serveurs, etc. Donc plus on va mettre du contenu, plus ça va demander de l'espace. Donc il y a pas mal de, voilà, de travail sur ce côté-là, mais n'étant pas une spécialiste du domaine, quand on va trouver le partenaire technique qui va nous accompagner sur ça, ben, on aura plus de visibilité sur les défis qu'on pourrait rencontrer d'un point de vue technique. Après, on avait identifié le défi au niveau de l'adoption de l'outil, parce qu'il y a des populations qui sont réfractaires au changement. Mais ça, c'est des défis qu'on est sûr de lever avec l'appropriation culturelle de l'outil, en fait. Parce qu'on l'a expérimenté physiquement déjà en langue locale. La manière même que les formateurs ont de nous accueillir, elle est complètement différente. Le langage corporel qu'ils ont dans l'assimilation du contenu qu'on leur transmet, il est totalement différent.
Et justement, dans la conception de votre projet, vous avez parlé de différents modules. Il y a des modules de jeu. Pouvons-nous avoir une idée de ces modules de jeu et en quoi est-ce que ces modules de jeu sont utiles pour les plus jeunes, pour les enfants, pour les adultes, pour les analphabètes?
Les jeux seront utilisés comme exercices. Alors, nous voulons, avec cette application, développer des compétences techniques. Donc, si on doit vous apprendre à construire un biodigesteur, si on vous demande d'aller acheter tant, vous n'allez pas avoir les moyens. Nous voulons vous apprendre à concevoir l'équipement pour fabriquer votre gaz, pour pouvoir cuisiner. Si tout de suite on vous dit la liste du matériel à acheter, ça peut décourager les moyens financiers. Par contre, grâce au digital, on peut vous mettre dans les conditions réelles de fabrication où du coup vous pouvez faire le montage. Si le montage n'est pas bon, vous voyez la fuite et vous voyez le risque. En tout cas, si la fuite, ça rend malade ou bien ça pollue, etc. Ou bien, dans le pire des cas, imaginons, ça explose. Vous êtes en situation réelle. Vous avez les paramètres que vous devez contrôler. Tout ça, c'est dans votre langue. Donc, vous pouvez comprendre les enjeux. Vous pouvez comprendre ce qui se passe derrière. Vous pouvez même simuler les règles de sécurité, les équipements à porter, etc. Et l'application peut, du coup, vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez bon dans la conception même de ce qu'on vous demandera de faire. Après ça, vous êtes à le faire en réalité.
Lors de la remise du prix, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, était là, elle a présidé la cérémonie. Comment elle a réagi?
En effet, elle m'a dit que c'était une mission importante du ministère de préserver les langues locales et qu'à cet effet, ce projet-là l'intéressait particulièrement et qu'on poursuivra la discussion pour savoir comment est-ce que, du coup, on peut collaborer ensemble.
Nora Monet, à quel niveau comptez-vous présenter ce projet en dehors de la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que vous entendez faire dans ce sens?
Lors de la remise de prix, il y avait le directeur adjoint du cabinet du ministère de la transition numérique et de la digitalisation. Et ils m'ont fait l'honneur de m'inscrire sur la shortlist de la délégation ivoirienne qui participera au VivaTech du 22 au 25 mai à Paris. Donc j'espère de tout cœur que je ferai partie de la délégation finale choisie par le ministre.
Le projet GreenEd est lancé. Vous avez reçu le prix. Quelles sont les perspectives que vous envisagez?
Pour les perspectives, on envisage de nouer des partenariats institutionnels et de pouvoir faire certifier nos formations au niveau national déjà, dans un premier point. Un deuxième point, c'est que on souhaite aussi pouvoir ouvrir l'application à certaines entreprises pour pouvoir leur permettre de communiquer sur de la publicité verte et écologique. Ça nous permettra, nous, d'être subventionnés, de pouvoir offrir l'application gratuitement à un maximum de personnes. Voilà. Nous appelons aussi à la subvention toutes les personnes qui ont envie de rejoindre l'initiative, le projet, pour pouvoir vulgariser les compétences en langue locale. Ils peuvent aussi m'approcher, nous rejoindre et puis voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble.
Monet Noura, je vous remercie.
Merci beaucoup.
En prenant en compte les langues locales, Noura Monet donne ainsi une autre valeur, un sens au projet GreenEd, car dit-elle, et je cite, aujourd'hui, la culture est devenue un maillon fort du développement durable car on ne peut pas inciter au changement de comportement sans intégrer le volet culturel. Fin de citation. Antoine Kouassi était à la technique. Marthe Kakou à ce micro. Merci de votre attention et à bientôt.